Chapitre 11, où Chantecoq nous démontre que son sac à malice est loin d'être épuisé. À peine le roi des détectives et son secrétaire avaient-ils absorbé leur café, qu'un bruit de pas dans le vestibule placé au-dessus de leur tête attirait leur attention. Le limier fit aussitôt : « Oh, ce sont certainement les Duchesne qui rentrent. Toi, attends un peu et va te coucher ensuite discrètement, car j'imagine que demain la journée sera plutôt gratinée et que nous aurons besoin de toutes nos forces. » Cela dit, Chantecoq escalada l'escalier et apparut dans le vestibule au moment où le jeune artiste et sa femme se préparaient à regagner leur chambre. « Monsieur et madame n'ont besoin de rien ?» demanda le faux valet de chambre. « Non, mon ami, je vous remercie, » répliqua Yvette, qui, toute souriante, semblait enchantée de la soirée qu'elle venait de passer chez Will Bright. Et tout de suite, elle ajouta, avec une menace nuance d'inquiétude, « Babi, il n'allait pas plus mal. »« Ça, non, madame, » répliquait le contraire, aurait le détective, avec une assurance merveilleuse. « Non, il allait même beaucoup mieux, et il s'est très bien endormi. » « Nounou a-t-elle bien dîné ?»« Oh, elle a paru très satisfaite. »« C'est très bien. Bonsoir, Augustin. Vous n'auriez pas dû nous attendre. »« Oh, madame, il n'est pas très tard. » Gaiement, madame Lachesnais lançait en atteignant la première marche. « Croyez qu'ici, surtout, nous n'avons pas l'habitude, mon mari et moi, de rentrer aussi tard. » Avant de lui embalavoiter le pas, Lachesnais dirigea vers le limier un coup d'œil interrogateur. Tandis qu'Yvette continuait l'ascension de l'escalier, Chantecoq s'approcha du peintre et lui murmura à l'oreille « Tâchez, sous un prétexte quelconque, de venir me rejoindre tout à l'heure dans le studio. » Lachesnais fit un geste d'acquiescement et rejoignit sa femme au moment où elle pénétrait dans sa chambre. « Mais j'ai envie d'aller embrasser Baby, » lui dit-elle. « Non, chérie, ne fais pas cela. »« Pourquoi ?»« Mais tu risquerais de le réveiller, puisque Augustin t'a dit qu'il allait mieux. »« Oui, tu as raison. » Ils se déshabillèrent. Lorsque Jean fut en pyjama, il s'exclama. « Ça ne t'ennuie pas que je lise un peu ?» « Oh, pas du tout, » répliqua la jeune femme. « Oh, d'autant plus que j'ai l'intention d'en faire autant. Je n'ai pas du tout envie de dormir. »« Oui, le fait est que Will Bright nous a fait boire un petit peu trop de champagne. »« Oh, un moment, la tête commençait à me tourner. Heureusement qu'il a eu l'idée de nous faire faire un petit tour sur la côte. Sans cela, je crois que pour rentrer, j'aurais dû demander le secours de ton bras. » « Alors, » fit Jean, « je vais descendre chercher des bouquins dans l'atelier. »« Tâche de me trouver quelque chose d'intéressant. »« Un roman ?»« Non, non, des mémoires historiques. »« C'est de Madame Campan, la première femme de chambre de Marie-Antoinette. »« C'est entendu, mais me demande par exemple où j'ai pu le fourrer. » Jean s'enfuit en chantonnant, dissimulant ainsi le désir anxieux qu'il avait d'entendre ce que Chantecoq avait certainement d'important à lui dire. Il trouva le détective dans le studio. Avec sa netteté habituelle, celui-ci attaqua. « Eh bien, je commence par vous dire, cher monsieur, que tout marche admirablement, même beaucoup mieux et plus vite que je ne l'eusse espéré. Permettez-moi cependant de ne rien vous dire encore. D'abord parce que ce serait extrêmement long et que votre absence pourrait sinon inquiéter, tout au moins troubler Madame Lachesnais, mais parce que je n'aime pas vendre la peau de l'ours avant que la bête ne soit tout à fait à terre. Or, si l'ours a reçu quelques balles dans la peau, il court encore et c'est ou mort ou bien muselé que j'entends vous le présenter. Je me contenterai donc de vous poser une simple question. Et dites, je vous en prie, comment votre nourrice est-elle entrée chez vous? Est-ce par l'intermédiaire d'un bureau de placement ou bien par recommandation? Cette demande parut interloquer vivement le jeune artiste, car il fit aussitôt: Mais à ça, est-ce que vous soupçonneriez Anne? Le roi des détectives m'interrompait. Non, je vous en supplie, cher monsieur, ne m'interrogez pas. Je ne pourrai pas vous répondre parce que cela m'est interdit. Chantecoq avait parlé avec un tel accent d'autorité bienveillante que la Chesnaye ne jugea pas utile d'insister, et tout de suite il reprit. Ah, nous a été recommandé par notre ami Will Bright. Très bien, cher monsieur, je vous remercie. Maintenant, je vais pouvoir faire un somme jusqu'à demain. Je ne puis que vous répéter ce que je viens de vous dire à l'instant même. Tout marche admirablement bien. La Chesnaye, dominée par l'ascendant irrésistible que le roi des détectives exerçait toujours sur ceux auxquels il avait affaire, lui tendit spontanément la main tout en disant: Oh, je n'ajouterai qu'une chose, monsieur Shancock, c'est que ma confiance en vous est tellement grande que moi aussi, pour la première fois depuis 48 heures, je vais pouvoir dormir tranquille. Chantecoq se retira le premier. Le jeune peintre prit dans une bibliothèque 2 livres, dont celui que sa femme lui avait réclamé, et il regagna son appartement. La nuit se passa sans incident. Le lendemain matin, ainsi qu'il l'avait demandé la veille à leur nouveau valet de chambre, Monsieur et Madame la Chesnaye trouvèrent le petit déjeuner prêt dans le studio à l'heure dite. Yvette observa que, tout en les servant, Augustin avait un air plutôt embarrassé. Son visage reflétait même une certaine tristesse. Lorsqu'il fut sorti, elle dit à son mari: Tu n'as pas remarqué qu'Augustin semblait soucieux, préoccupé? Peut-être ne se plaît-il pas à la maison. Oh, cela m'étonnerait, répliqua Jean. En tout cas, je peux le lui demander. Comme Chantecoq reparaissait, la Chesnaye lui demanda, jouant lui aussi son rôle, qui consistait à tout dissimuler à sa femme d'une vérité qui risquait de la frapper d'un coup peut-être irrémédiable. Dites-moi, bon garçon, vous n'avez pas l'air satisfait. Oh, mais si, monsieur, répliqua le détective. Alors qu'avez-vous? Insista Yvette. Hier soir, vous me paraissiez très content, et aujourd'hui, vous faites une figure qui donnerait à penser que vous vous déplaisez ici. Oh, pas du tout, madame, protestait le limier, bien au contraire. Non, je disais tout à l'heure à ma nièce que vraiment nous avions eu de la chance que monsieur le docteur Levasseur voulut bien nous recommander à vous. Alors je ne comprends pas, scandait le peintre. Moi non plus, appuya la jeune femme. Chantecoq reprenait. Ben, je ne voulais pas le dire à monsieur ni à madame, parce que je suis si nouveau dans la maison. Et je voudrais pas qu'ils aient déjà de moi une mauvaise impression. Mais j'ai reçu tout à l'heure un télégramme qui m'a annoncé que ma sœur, qui habite Nantes, est très gravement malade et qu'on désespère même de la sauver. Oh, pauvre garçon, plaignait Yvette. La Chesnaye, qui avait deviné les intentions du détective, reprenait. Mais cette sœur, eh bien, la mère d'Armandine. Oui, monsieur, même que je n'ai pas encore osé lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Car la pauvre petite va avoir bien du chagrin, surtout si elle ne peut pas voir et embrasser sa mère avant qu'elle ne s'en aille pour toujours. Chantecoq avait prononcé ces derniers mots avec un tremblement dans la voix qui acheva d'émotionner Yvette, dont l'excellent cœur était toujours prêt à s'apitoyer sur les chagrins des autres. Et elle fit: Mais il faut partir tout de suite, tous les deux. Dans des cas pareils, il n'y a pas d'hésitation possible. Oh, madame, s'écriait Chantecoq, vous êtes vraiment trop bonne. Mais je ne voudrais pas laisser monsieur et madame dans l'embarras, surtout le lendemain du jour où nous sommes entrés à leur service. Non, madame a raison, intervenait la Chesnaye. Vous devez avoir un train qui part de Quiberon, je crois, vers 1 heure. Et vous n'aurez qu'à le prendre. Il vous emmènera à Auray, et de là, vous trouverez un express qui vous conduira à Nantes. Je crois qu'il ne marche pas très vite, mais vous arriverez tout de même plus tôt à destination que si vous attendiez le rapide du soir. Le faux Augustin se confondait. Oh, mais je ne sais vraiment trop comment remercier monsieur et madame de leur bonté. Si monsieur et madame le veulent bien, dès que ce sera fini là-bas, nous reviendrons tout de suite. Mais en attendant, je suis bien ennuyé, car je me demande comment monsieur et madame vont faire pour se débrouiller pendant notre absence. Ne vous inquiétez pas, mon ami, déclara Yvette. Nous tirerons toujours d'affaire. Maintenant, allez apprendre, avec tous les ménagements possibles, la triste vérité à votre nièce, et dites-lui bien que nous prenons une part très vive à sa peine. La Chesnay ajouta: Oh, je suis obligé d'aller à Quiberon dans 1 heure avec l'auto. Tenez-vous prêt, armandinez-vous, afin que je vous emmène. Oh, monsieur est vraiment bien aimable. Oh, je doute que je trouve ici quelqu'un pour vous conduire. Par ce beau temps, Jean-Marie doit être à la pêche. Chantecoq reprenait. Oh, monsieur est véritablement trop aimable. Ça nous évitera en effet, à Armandine et à moi, une longue course à pied par ce soleil. Nous mangerons un morceau sur le pouce et, comme cela, nous serons sûrs de ne pas manquer notre train. Chantecoq s'en fut enchanté d'être aussi bien compris et secondé par la Chesnay. En effet, il avait hâte de quitter le plus tôt possible Ker Yvette afin de se livrer à certaines opérations policières qu'il avait ruminées et qui, selon lui, devaient le conduire au succès final. 1 heure après, il revenait dans le studio, flanqué d'Armandine, dont les yeux, consciencieusement frottés avec des oignons, versaient beaucoup de larmes. Madame la Chesnay, qui les attendait, leur prodigua des paroles de consolation jusqu'au moment où son mari apparut en costume de sport et dit au pseudo-domestique qui tenait à la main la valise avec laquelle ils étaient arrivés la veille: Nous partons. Chantecoq n'avait jamais menti avec plus de plaisir, puisque ce travestissement de la vérité non seulement était indispensable à la réussite de l'affaire, mais encore à la tranquillité morale de cette pauvre mère, de cette exquise femme dont il ne fallait à aucun prix troubler la touchante illusion. Fignolant jusqu'au bout son rôle, il crut devoir ajouter: Oh, ma nièce et moi, nous avons laissé là-haut toutes nos affaires dans une malle. Pour quand nous viendrons, puisque monsieur et madame veulent bien nous conserver à leur service, madame pourra voir que tout est bien en ordre. J'en suis sûr, Augustin. Allons, au revoir, madame. Météore Armandine, étouffant ses sanglots, balbutia 2 ou 3 paroles inintelligibles. Et elle s'en fut, au bras de son oncle, s'installer dans la voiture, où elle s'effondra avec toutes les apparences d'un désespoir que rien ne peut apaiser. La Chesnay, qui conduisait fort bien, prit le volant. La voiture s'éloigna dans la direction de Kearney, d'où elle gagna la grande route qui conduisait à Quiberon. En chemin, Chantecoq dit à la Chesnay: Oh, vous m'avez admirablement compris. Vous m'avez singulièrement facilité les choses. Où dois-je vous conduire? Interrogeait le jeune artiste. Oh, à Quiberon, où j'ai un coup de téléphone à demander pour Paris. Ensuite, je vous prierai de me déposer à 200 ou 300 mètres du village de Kerostin. Vous pourrez ensuite retourner chez vous, attendre les événements avec sérénité, car vous ne tarderez pas à avoir de mes nouvelles. La Chesnay, qui ne pouvait faire au moins que de partager l'optimisme admirable du grand détective, reprenait: Oh, véritablement, c'est pour moi une chance inespérée que vous soyez venu villégiaturer dans ce beau pays, et surtout que mon ami le bosseur ait été le vôtre. En tout cas, déclarait Chantecoq, C'est pour moi, je vous l'assure, une joie profonde de vous rendre un bonheur dont votre femme et vous êtes si parfaitement dignes. Filant à belle allure, l'auto arriva promptement à Quiberon et stoppa devant le bureau de poste qui se trouve à l'entrée de la ville. « Oh, je crois que cela va demander un certain temps, » dit Shantcock, « car il faut que je téléphone à Paris. Pour l'instant, si vous avez des emplettes à faire, profitez-en. Ce coup de téléphone est extrêmement important et doit, selon moi, confirmer matériellement une certitude que j'ai déjà dans l'esprit. Et je serais très heureux si je pouvais vous déclarer tout à l'heure que je ne me suis pas trompé. « C'est entendu, monsieur Shantcock, » acquiesça le peintre. « Je vais aller faire mon marché et je reviendrai ensuite ici. » Shantcock pénétra dans le bureau de poste avec Météor. Il s'en fut au guichet du téléphone et demanda une communication pour Paris. Ce jour-là, la ligne n'était pas trop chargée. Il obtint au bout d'une demi-heure environ. C'était au bijoutier Logeron qu'il téléphonait afin de lui demander à qui appartenait la bague qu'il avait trouvée la nuit précédente dans le couloir souterrain. Monsieur Logeron, qui au nom de Shantcock était venu immédiatement à l'appareil, lui déclara, sans se faire prier le moins du monde, que cette bague avait été achetée chez lui 18 mois auparavant par une Américaine nommée Miss Colmage, qui avait dû l'offrir à son fiancé, M. Douglas Wheelwright. Shantcock, radieux, remercia chaleureusement son aimable correspondant et revint triomphalement vers Météor, auquel il dit simplement « Victoire, m'étais pas trompé. Maintenant, nous allons commencer à rire. » La Chesnay revenait quelques instants après. Shantcock et Météor remontaient en voiture et le détective confia à l'artiste. « Le coup de téléphone que je viens de donner à Paris a tout confirmé. Demain, ou aujourd'hui peut-être, nous saurons ce qu'est devenu votre petit Jackie. Quoi qu'il en soit, d'ores et déjà, je vous garantis de la façon la plus absolue qu'on ne lui a fait aucun mal. » Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir nous ramener, mon secrétaire et moi, jusqu'à mi-route de Saint-Pierre et de Kérosin, car je vais entrer dans la période active de mes recherches. » La Chesnay fit aussitôt ce que le détective lui demandait. Quelques minutes après, il arrêtait son auto à l'endroit désigné. Après avoir échangé avec lui une cordiale poignée de main, le détective et son secrétaire descendaient de voiture et gagnaient, par un chemin de traverse, leur villa, où Gautret et Marie-Jeanne étaient bien loin de les attendre si tôt. Inutile de dire que, suivant les instructions du détective, le mannequin qu'il représentait était toujours couché dans son lit, et que Gautret, suivant le mot d'ordre, s'était arrangé de telle sorte qu'il fut aperçu par 2 ou 3 personnes du pays. Immédiatement, Shantcock dit « Oh, tu vas tout de suite dire à Marie-Jeanne de nous faire un bon déjeuner que l'on nous servira non pas dans la salle, mais dans la chambre de Météor. Après quoi, tu partiras immédiatement pour le village de Kerney. Tu prendras la moto de Météor. Tu t'en iras sonner à la villa de l'Américain nommé Wheelwright. Tu raconteras au domestique qui t'ouvrira que ton patron, M. Shantcock, est très malade et que tu cherches partout le docteur Le Bosser. Qu'on t'a dit qu'il était chez M. Wheelwright et que tu lui demandes de passer le plus tôt ici. Si par hasard le docteur était là, car tout arrive, tu le laisseras venir tranquillement sur sa bécane, mais tu lui dirais que je l'invite à dîner, car j'ai beaucoup de choses à lui dire. « C'est compris, patron, » répliqua Gautret. Et il s'en fut exécuter les ordres de son maître. Shantcock continuait. « Oh, quant à toi, Météor, tu vas reprendre ta figure habituelle et tu t'arrangeras de façon à faire savoir dans le pays et aux alentours que tu es revenu de randonnée ce matin et que tu m'as trouvé très malade et que tu es très inquiet car j'ai beaucoup de fièvre. Bien, patron. Ah bon encore, est-ce que dans notre garde-robe, tu as apporté la défroque de missionnaire? Oh oui, patron, celle qui va avec la grande barbe grise et la perruque au crâne dénudé. Oui, parfaitement, mais tu vas me la préparer pour quelques heures. Je rentre dans les ordres. Patron, dans un quart d'heure, tout sera prêt. Oh non, l'on n'a besoin que dans une heure. Aussi, tu as tout ton temps pour changer de sexe et de vêtements. Moi, je vais me déshabiller et préparer mon travail de l'après-midi. Il passa dans son cabinet de travail et quelques minutes après, revêtu d'un pyjama, il était redevenu un chantecoq en chair et en os. S'étendant sur une chaise longue en osier, il se mit à bourrer sa pipe et l'ayant allumée, il grommela tout en aspirant quelques bouffées. Maintenant, renfermons-nous dans notre cabinet de travail. Fermant à demi les yeux, il se plongea dans ses réflexions qu'il entrecoupait de temps en temps par ces phrases. Ben évidemment, il doit être au courant de tout, mais comment le faire parler? Oh, ça va pas être commode. Pourtant, cela me ferait gagner joliment du temps. Enfin, on en a vu d'autres et on en verra d'autres encore. Somme toute, je suis placé sur un excellent terrain. Oui, mais voilà. Il s'agit d'attacher le grelot et ensuite de le faire sonner. Alors, mon vieux chantecoq, réfléchis encore. Tu vas trouver. Et puis, si tu ne trouves pas, une fois que tu seras en contact avec l'ennemi, oh, je suis bien tranquille. Le Saint-Esprit viendra te visiter et répandre sur toi ses lumières, comme si tu étais un des 12 apôtres. Il réfléchit encore, mais cette fois en silence, puis se redressant tout à coup, juste au moment où sa pipe venait de s'éteindre, il s'écria: Oh, cette fois, ça y est, il n'y a pas à tergiverser. Avec des cocos pareils, tous les moyens sont permis et même ordonnés. Vraiment, je ne sais pas pourquoi on prend tant de ménagement avec la crapule, quand la crapule en pense si peu avec les honnêtes gens. Allez, fuyons encore une bonne pipe. Décidément, il y en a un de tel pour me surexciter les méninges et galvaniser mon imagination. Son second qu'allumait terminé, il allait retourner dans sa chambre lorsque Météore apparut, portant sous son bras une soutane et un chapeau d'ecclésiastique, et tenant d'une main une paire de gros souliers ferrés et de l'autre une boîte en carton assez volumineuse. Il déposa le tout sur des chaises et il s'enquéra. Alors, patron, est-ce que je peux maintenant aller faire un tour dans le village? Mais certainement, et surtout, tâche d'avoir l'air bien inquiet. Est-ce qu'il faut que je frotte encore mes yeux avec des oignons? Oh non, n'exagérons rien. Patron, excusez-moi, et tâche aussi savoir comment il se fait que les douaniers ne sont pas venus l'autre soir à Kerivette. Bien, patron. Il s'éclipsa. Pendant ce temps, Gautret était parti sur la moto du secrétaire. 10 minutes après, il atteignait la villa de l'Américain. Il sonna à la porte. Le valet de chambre Harold s'en vint lui ouvrir. Aussitôt, Gautret, qui avait déposé sa machine contre le mur, fit en enlevant poliment sa casquette. Je suis le valet de chambre de Monsieur Chantecoq, et je viens vous demander si Monsieur le docteur Lebosser n'est pas ici. Pourquoi? Interrogeait Harold. Mais j'allais vous le dire, répliquait Gautret, qui avait su donner à son visage une expression de réelle inquiétude. Et il fit aussitôt. Mon patron a été pris ce matin d'une fièvre très violente. Il se plaint d'un violent point de côté. Il a très mal à la tête, il tousse, enfin, il a l'air bien malade. Et à Quiberon, on m'a dit que le docteur devait visiter ce matin M. Wheelwright. Alors, je suis venu, car le cas est vraiment pressant. Il y a sûrement quelque chose à faire tout de suite. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Mais c'est tout naturel, répliqua Harold avec un accent américain assez prononcé. Et il poursuivit, fort courtoisement d'ailleurs. Un quiberon nous a bien renseigné. Monsieur le docteur Levasseur est en effet passé voir Monsieur Wilbright, qui avait une petite rechute dans la nuit, mais il est parti environ un quart d'heure. Gautrey eut un geste de dépit. Harold reprenait. Rassurez-vous, il ne doit pas être bien loin. Je crois que vous le trouverez chez la mère Leport, dont la fille a eu hier un accident en allant chercher du goémon sur la côte. Il paraît qu'elle s'est donné une entorse. Gautrey, qui ne songeait d'ailleurs nullement à s'apitoyer sur le sort de la blessée, non pas qu'il fût inhumain, mais parce qu'il était très pressé, remercia vivement le valet de chambre de Wellwright avec beaucoup d'effusion, et il demanda: Pourriez-vous être assez aimable pour me dire où se trouve la maison de Madame Leport? On la voit d'ici, fit Harold en indiquant une petite demeure de pêcheur composée d'un rez-de-chaussée aux murs crépis en blanc et d'un toit aux ardoises très bleues, qui se trouvait seule à l'entrée du village, au milieu d'un champ de pommes de terre. Gautrey prit sa motocyclette et, jugeant inutile de l'enfourcher pour un si court trajet, il la poussa à la main et gagna par un sentier très étroit la chaumière que Harold venait de lui montrer. Le docteur Lebosser, en effet, était en train de bander la cheville de la jeune Bretonne, qui, très dure au mal, comme toutes les femmes de la côte, ne faisait même pas entendre une plainte, et avec un héroïsme naïf, se contentait de dire: Est-ce que vous pensez, monsieur le docteur, que je pourrais bientôt reprendre mon travail? Le bosseur lui répondait: Oh, il faut compter au moins une quinzaine. Cette fois, la pauvre fille fit entendre un gémissement qui se prolongea par ces mots: Oh, 15 jours sans rien faire! Oh là là! Si je pouvais marcher, je m'en irais me jeter dans la mer. Comme ça, ce serait bien plus vite fini. En effet, reprenait le médecin. Seulement, ça serait une solution un peu trop radicale. Et se tournant vers la vieille qui commençait à invoquer tous les saints de la Bretagne, que Dieu lui-même n'a jamais dû réussir à compter, Monsieur le Bosser grommela: Allons, allons, ne vous faites pas de bonne mauvaise sang comme ça. Madame Leport larmoyait: Mais qu'est-ce qu'on va manger pendant ce temps-là, mon bon monsieur? On n'a pas le sou à la maison. Et cette année, les pommes de terre n'ont pas donné. Ah, je vous vois venir, répliqua le bosser. Vous me racontez tout cela pour que je ne vous envoie pas ma note. Oh, sûr que je serais bien en peine de vous la payer, puisque je dois 25 francs à mon boulanger. Ah, vous devez 25 francs à votre boulanger, s'écria le bosser sur un ton de sévérité comique. Ce n'est pas bien de faire des dettes comme ça. Surtout, dénonçait la fille, qu'elle trouve toujours des sous pour acheter de la goutte. La goutte, grommelait la vieille. C'est pas pour rien qu'on l'a appelée de l'eau de vie. Et si j'en bois, c'est parce que je veux pas encore mourir. Alors, rassurez-vous, reprenait le médecin avec bonhomie, je vous demanderai rien. Et tirant de sa poche le portefeuille, il en sortit quelques billets en disant: Allez, voilà 25 francs pour payer le boulanger. Seulement, vous avisez pas des employés à acheter de l'alcool, parce que alors, moi, quand vous serez malade, je refuserai de vous soigner. Le docteur Lebosser s'en fut, accompagné par les remerciements de la fille et les bénédictions de la vieille. Dehors, il rencontra Gautrey, qui guettait sa sortie avec grande impatience. Tout de suite, le domestique de Chantecoq dit au docteur: Monsieur Chantecoq est rentré en ville et voudrait bien vous voir. Il m'a chargé de vous inviter à déjeuner. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il en a long à vous raconter. Le médecin répliquait. Oh, j'ai encore quelques visites à faire, mais retournez tout de suite. Je serai à midi, sonnant chez lui. Je vous remercie, monsieur le Mosser. Encore un mot, s'il vous plaît. Mais parlez, mon ami. Si quelqu'un vous demandait des nouvelles de monsieur Shandcock, de dire à ces personnes que je suis venu vous chercher parce que mon patron avait attrapé un refroidissement et qu'il était gravement malade. C'est entendu. Le bosser enfourcha sa bécane et Gautret grimpa sur sa moto pour s'en aller retrouver son maître, qui le félicita sur la vélocité et l'intelligence avec laquelle il s'était acquitté de sa mission. Puis il demanda « Tu n'as pas vu, ni même aperçu, le sieur Wilbright ?»«
Non, patron. »«
Ce domestique, quelle tête a-t-il »«
Au premier abord, il a l'air un peu niquedouille, mais, pardonnez-moi l'expression, je veux dire, oh, inutile de traduire, j'ai compris. »« Mais quand on le détaille un peu, ça doit vous être une lame d'autant plus dangereuse qu'on ne se méfie pas d'elle. »
Solide, oui, assez musclé, mais pas de taille avec vous, monsieur Shandcock. Bon, maintenant, va vite retrouver Marie-Jeanne et dis-lui que le docteur Le Mosser déjeune avec nous et qu'elle soigne tout particulièrement le déjeuner. Pour ne pas en perdre de temps, je vais aller revêtir mon vêtement d'ecclésiastique sous lequel je vais poursuivre la dernière phase de mon enquête. Ainsi qu'il l'avait annoncé, le docteur Le Mosser, à midi tapant, arrivait à la villa de Shandcock. Météor, qui le guettait, le fit tout de suite monter dans la chambre où le couvert avait été dressé, pour la raison bien simple que, de là, il était impossible de voir de l'extérieur ce qui s'y passait. À l'aspect du vieux missionnaire, qui, assis dans un fauteuil, fumait une énorme bouffarde, tout en sirotant un verre de Porto de première qualité, ce bon docteur, bien qu'il se doutât qu'il avait devant lui le roi des détectives, ne put réprimer une exclamation de surprise, tant son ami avait su incarner de la façon la plus vivante ce nouveau personnage qu'il avait choisi pour des raisons connues de lui seul et qui ne pouvait pas manquer d'être très sérieuse. Shandcock l'accueillit tout de suite avec sa cordialité habituelle et versa lui-même un verre de Porto à ce brave docteur, auquel ce dernier, bien qu'il l'interdit absolument à tous ses clients, s'empressa de faire un sort. Puis on se mit à table, et tout en dégustant la cuisine de Marie-Jeanne, qui était évidemment de qualité supérieure à celle de l'éphémère Armandine, Shandcock raconta au docteur Le Mosser, littéralement émerveillé, tout ce qui s'était passé au cours de la nuit précédente à la villa Kerivet. Lorsqu'il eut terminé, le grand limier fit d'un air légitimement satisfait. « Eh bien, mon bon ami, je crois que voilà du bon travail. »«
C'est tout simplement ébouriffant !» s'extasia le bosseur.
« Et quelle conclusion en tirez-vous ? » interrogeait le détective avec un malicieux sourire. «
Oh, il est très simple. C'est que Wilbright, le voisin de la Chesnay, a servi à son frère d'indicateur pour l'enlèvement du petit Jackie. Mais en effet, approuvait Shandcock, cela saute aux yeux. Il me reste donc plus qu'à faire avouer à ce gredin toute la vérité, et principalement à le contraindre à me révéler l'endroit où l'on a caché le pauvre petit gosse.
« Oh, pour vous, observait le médecin, cela sera un jeu d'enfant. »« s'écria le roi des détectives en hochant la tête. « Ce sera peut-être pas si facile que cela. En tout cas, ce Wilbright a tout l'air d'un dangereux coquin. Doublé d'un très habile homme, il ne se laissera sûrement pas tirer les vers du nez aussi facilement que vous semblez le croire. Aussi, sans vous demander, puisqu'il est votre client, de trahir le secret professionnel, je vous serais néanmoins très reconnaissant si vous pouviez me donner certains renseignements sur ses habitudes, par exemple,
ou ses relations, sur ce que vous savez de son passé, etc., etc., enfin, tout ce que vous jugerez capable de m'être utile. Mon cher ami, répliqua le bosseur, vous savez à quel point je suis toujours désireux de vous être agréable. Oui, je le sais, vous me l'avez prouvé. Eh bien, je crains dans cette occasion que je ne sois pas d'un grand secours. Les habitudes de Will Wright, elles sont celles d'un célibataire qui vit seul avec ses domestiques, en même temps que celles d'un artiste, plus amateur d'ailleurs que professionnel, mais qui ne semble nullement doué du feu sacré qui anime, par exemple, le jeune Lachesnay. Je crois cependant qu'il aime beaucoup le whisky et autres liqueurs fortes, car lorsqu'on va chez lui, je le trouve presque toujours en train de déguster une de ses boissons qui lui sont favorites et dont d'ailleurs il vous force, si vous ne voulez pas lui déplaire, à ingurgiter un verre, et si vous voulez lui faire plaisir, à en avaler à plusieurs. Donc, ceci est très intéressant, notait Shattuck au passage. Quant à ses relations, reprenait le docteur, je lui en connais pour ainsi dire pas. Je sais que l'hiver dernier, à la Noël, il avait amené chez lui plusieurs personnes de Paris pour réveillonner. Ah oui, fait Shattuck, le coup des revenants. Mais je dois vous dire que ses invités ont quitté le pays le lendemain, et que nul ici n'a jamais eu l'occasion de leur adresser la parole. Quant à son passé, je n'en ai appris que ce que m'a raconté la Chesnay, et ce qu'il a pu vous dire lui-même. Je dois vous dire que j'ignorais qu'il eût un frère, et je crois que la Chesnay doit être dans le même état que moi. Shattuck reprenait. Oh, inutile, mon cher docteur, de vous creuser davantage la cervelle. Maintenant, je suis tranquille. Du moment que Will Wright aime l'alcool, tout va bien. Cependant, j'ai encore une question à vous poser. Mais je vous en prie, je vous ennuie pas trop. Mais non, jamais. Will Wright a à son service un valet de chambre et une cuisinière. Oui, c'est cela même. Êtes-vous à même de me donner quelques tuyaux sur eux? Mon Dieu, oui. Harold est américain. J'ai entendu Will Wright répéter à plusieurs reprises devant moi que ce garçon était depuis plusieurs années à son service et qu'il le considérait comme le modèle des serviteurs. Quant à la cuisinière, c'est une femme du pays, une veuve de marin, qui bénéficie d'une bonne réputation et que je crois incapable d'une mauvaise action. Était-elle là le soir du réveillon? Non, non, elle n'est entrée chez Will Wright que depuis le mois de juin dernier, cela d'ailleurs sur ma recommandation. Vous a-t-elle communiqué ses impressions sur son maître? Oui, elle m'a dit que si elle n'avait pas grand besoin de gagner sa vie, elle ne serait pas longtemps restée chez lui. D'abord parce qu'il était buveur et qu'ensuite il ne lui adressait jamais la parole. Il faisait transmettre ses ordres par le valet de chambre. Shattuck réfléchit un instant. Puis il reprit. « Est-ce que cette cuisinière couche dans la maison de Will Wright ?»« Oh non, répliqua le docteur. Elle s'en va tous les soirs, vers 6 heures, retrouver sa vieille mère, qui vit dans une petite masure à Kearney. » « Bien, posait le roi des détectives, d'un air satisfait. Maintenant, je sais sur quel terrain je m'aventure. Mon cher docteur, vous m'avez tout à fait bien renseigné. » Le déjeuner s'acheva sans qu'il ne fût plus aucune allusion au mystère que Shattuck était en train d'élucider. Le docteur s'en fut vers 1h30, après s'être excusé, car sa consultation à Quiberon le réclamait. Shattuck retourna dans sa chambre et prit dans le tiroir de sa commode un pistolet semblable à celui dont il s'était servi au cours de son expédition au trou du souffleur et le glissa dans sa poche. Puis il s'en fut chercher une canne de forte dimension et soulevant le clou d'acier assez large qui était fixé sur son pommeau, Il regarda l'entrée d'un tuyau en zinc qui occupait l'intérieur de la canne. Puis il partit tranquillement à pied à travers champs, après avoir donné à son secrétaire de mystérieuses instructions.